J'aime voir aussi ce que Dieu fait au niveau de la guérison. Je vais en Suisse une fois par mois. On m'invite, si tenez-vous bien sur votre chaise, pour enseigner 40 minutes à 200 personnes. J'ai 200 élèves devant moi, de tout âge, enfin alors pendant j'ai 40 minutes pour leur enseigner sur l'histoire de la guérison, l'évolution. On me paye le billet d'avion, je pars le vendredi, je donne cours le samedi, je reviens le dimanche. 40 minutes. Et alors eux, ils ont la montre en main, hein, ils ont le chrono, et ces 40 minutes, c'est 40 minutes, pas plus. Et alors j'ai intérêt à être passionnant. Et tous les mois, j'y vais jusqu'au mois de juin. Alors je suis honoré de ça. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter cette dimension. Alors quand j'ai été invité ici, oui, alors je vais encore vous dire quelque chose. C'est que dans notre communauté locale, on a quelques ministères, de bons ministères au niveau de l'enseignement, au niveau prophétique. Et Dieu m'utilisait au sein de mon église locale. Et puis je commence à avoir un petit rayonnement à droite à gauche. Je vais travailler avec David. J'enseigne chez David à Binche, j'enseigne chez Carmelo Gerassi à Oudingouni. Et puis j'ai reçu une prophétie que mon agenda allait se remplir d'une manière incroyable. Et que je devais faire j'allais même partir à temps plein, et je dois vous dire que tout mon mois de janvier a été rempli de réunions et d'invitations. Alors c'est un honneur pour moi d'être avec vous, et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'être un instrument dans les mains de Dieu pour partager ce qu'il a mis sur mon cœur et pouvoir vous communiquer. Parce que mon cœur, il est là. Je suis un revivaliste et je dis à Dieu, moi je m'en fous de la théorie. La théorie, c'est bien beau, mais ce qui est important, c'est l'impact que ça fait dans les cœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux vous faire une belle prédication, vous allez avoir une tièce ainsi, et la semaine prochaine, mais quand je dis la semaine prochaine, je suis bien gentil, une demi-heure après, on demande, il a parlé sur quoi? C'est pas vrai? Hein, je vois qu'il y a des gens qui sourient là, ils savent de quoi je parle. Et ça m'intéresse pas. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de vous laisser peut-être une petite phrase. Peut-être que ce sera cette petite phrase qui révolutionnera votre vie. Vous comprenez? Et c'est ma prière ici. C'est la prière que je fais devant vous. C'est que je puisse impacter votre cœur et répondre à des questions. Et répondre à des interrogations de votre cœur. Moi, j'aime bien avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, quand je me suis converti, je viens d'un milieu réformé. Mon père était pasteur à Charleroi dans une église réformée. Je suis en train de dévier complètement de ma prédication là, mais enfin c'est pas grave. Et donc j'ai été élevé dans un milieu très traditionnel réformé. Et un jour, j'étais pas un sale gamin, j'étais pas un saint non plus. Hein. Vous savez comment c'est les fils de pasteurs. Et j'étais dans Benjamin, et c'est bien ça. Et alors je travaillais dans des cafés, j'étais barman et tout ça. Mon père exigeait de moi que j'aille au culte. Le culte se passait tous les dimanches de 10h à 11h. Non, 10h30 à 11h30, pas une minute de plus. C'était chronométré, mes amis. Il y avait 20 minutes de prédication. Si mon père osait prêcher 21 minutes, il se faisait casser. Tout était chronométré, c'était vraiment strict. Et moi, j'allais subir le culte, je comprenais rien à ce qu'il disait. Pourtant, mon père était un pasteur réformé, mais assez évangélique. Mais je comprenais rien à ses prédications. C'était trop compliqué, il parlait de tas de trucs, et puis moi, je regardais ma montre, vite que ce soit fini, et qu'on puisse partir. Ça, c'était vraiment mon truc. Et un jour, je vais au club de jeunes, et je vais au club de jeunes pour rencontrer un pasteur de Ransard. Il s'appelait Raymond Van de Put. Je sais pas si vous connaissez Raymond Van de Put, ça vous dit quelque chose. Et je voulais essayer j'étais un margoulin. J'essayais de faire des affaires, et j'avais appris qu'un membre de son église de Ransard revendait des lecteurs DVD, à l'époque, des lecteurs VHS. Vous voyez, c'était l'époque des bandes VHS. Ça vous dit à peu près mon âge. Donc, et il y avait, je sais pas comment, mais le gars, il revendait des trucs. Et moi, ça m'intéressait d'en racheter bon marché pour les revendre plus cher. Vous voyez? Et je voulais absolument rencontrer le pasteur Raymond pour qu'il me mette en contact avec le gars et que je puisse faire mon business. Vous voyez un petit peu le truc. Et alors Raymond, il était bien gentil, hein, mais il m'a dit, Pierre, est-ce que ça te dirait de venir à un camp de jeunes? Et moi, j'avais rien à cirer de son camp de jeunes, mais vraiment rien à cirer. Ce qui m'intéressait, c'était son contact. Alors pour lui faire plaisir, devinez ce que je lui ai dit. Ben oui. Et dans mon cœur, je disais, va te faire voir, mon ami, tu ne me verras pas là-dedans. Mais mon père était derrière moi. Mon père était juste derrière moi à ce moment-là. Et mon père me dit, enfin, dit à Raymond, ben, puisqu'il veut y aller, je vais te payer le camp tout de suite. Et je regarde mon père, j'étais coincé. J'avais dit que je voulais aller à ce camp, mon père le payait, et donc j'étais obligé d'aller à ce camp de jeunes. Vous savez, comme Benjamin, là, il fait ses annonces, un camp de jeunes, venez, 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 c'est des pièges. C'est Dieu qui va vous piéger. De toute façon, je peux le dire parce que vous êtes déjà piégé, vous êtes ici. Et me voilà parti à un camp. Mais à ce camp, moi, dans ma tête, c'était comme au scout. Donc, un camp de jeunes de scout, j'avais pris ma bouteille de vodka et j'avais pris mes paquets de cigarettes. Vous voyez? Ben oui, c'était un camp de jeunes d'église. Donc voilà, c'était ça pour moi. Et je me ramène là, mes amis. Oh. Moi, je vous dis, je viens des milieux réformés. Donc c'était les grandes orgues. C'était les chants du 16e, 17e siècle. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et puis, première réunion, il y avait Pierre Beumier qui était là aussi à ce moment-là. Et alors, c'est lui qui conduisait la louange. Vous connaissez Pierre? Pierre et Pierre Beumier et Christine. Et alors, ils avaient un ministère dans la louange et dans l'évangélisation à l'époque. Et je vois un piano, une batterie, c'était pas une batterie électrique, et une guitare électrique, une basse. Et je me dis, mais où est-ce que je suis, moi, ici? J'avais jamais imaginé que dans l'église, on puisse chanter des chants autres que ceux du XVIIe siècle. Et alors, première réunion, et on était beaucoup, il y avait peut-être, allez, je dirais une cinquantaine, au moins une grosse cinquantaine de jeunes, mais des jeunes en feu et passionnés d'amour pour Jésus. Et alors, ils chantaient les chants que vous chantez là, c'était les gemmes, mais c'était les premiers Jeunesse en Mission, hein. Donc vous imaginez l'âge que j'ai. Et alors, et je les vois lever les mains. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils lèvent les mains. Et c'était des jeunes, hein. Et alors, ils commençaient à aimer et à adorer Dieu dans la louange. Et moi, j'étais sur ma chaise, derrière, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai eu peur que je sois tombé dans une secte. Alors, je suis resté sur ma chaise, là, et j'ai dit à Raymond, écoute, Raymond, moi, je suis à l'UNIF, là, je faisais des études à l'université de Mons, et j'ai un examen de droit bientôt, il faut que je prépare mon examen de droit, on était à Pâques, donc je dois faire mes résumés de cours, donc tes réunions, et je pourrais pas y assister. Et Raymond me dit, pas de problème, Pierre, il y a une petite pièce sur le côté, je dirais une petite pièce qui est là, et puis, chaque fois que la réunion commence, tu vas travailler. Il était très cool pour ça. Et moi, j'avais mon cours de droit et je les laissais faire leur singerie. Sauf que, et j'entendais pas distinctement parce que la pièce était un petit peu éloignée, on était à Ranli. Et sauf qu'à un certain moment, j'étais assis à mon bureau en train de résumer mon cours de droit. Je cherchais pas Dieu. J'avais aucune pensée mystique ni rien du tout. Mais je commence à sentir une chaleur tout autour de moi. J'entendais qu'ils étaient en train d'adorer Dieu et tout autour de moi, je sens une chaleur. Je ne sais pas si vous imaginez comme un radiateur qui peut, qui rayonne dans. Mais vous savez, les gros radiateurs en fonte et vous sentez la chaleur quand vous êtes tout près. Mais là, c'était, ça venait de partout. Je me dis, il y a le feu. Je commençais à paniquer, mais en même temps, je me sentais aimé. Je sentais des vagues d'amour qui venaient sur mon cœur. Des vagues d'amour qui venaient sur moi, de plus en plus. Et elles m'inondaient. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dans ma grande intelligence, je me suis dit, c'est tes émotions, Pierre. Méfie-toi, c'est de l'émotion, c'est de l'émotionnel. Il y a personne qui m'avait parlé de rien du tout, hein. Mais je commençais à être touché au plus profond de mon être. Alors maintenant, je peux vous dire ce qui se passait. J'étais en train de vivre une visitation de Dieu. En fait, dans ma conception de protestant qui avait été élevé dans les protestants, j'avais une image de Dieu où Dieu était très loin. C'était un Dieu lointain. Je ne sais pas si vous avez la même image parfois qu'on a de Dieu. Il est sur un nuage, il a une barbe blanche et il a un bâton. Il est en robe, bien sûr. Et alors, il est là pour vous taper dessus quand vous faites quelque chose de mal. C'est un peu Père Noël ou Saint-Nicolas, je ne sais pas un peu cette image-là. Donc moi, quand j'allais faire les cultes de mon père, ben, je me disais, je vais au moins chanter 2-3 strophes pour que Dieu soit content. Ben, après, je dirais, bon, c'est bon, j'ai chanté 2 strophes, c'est bon. Ainsi, c'est comme ça que je raisonnais. Je vous dis, j'avais des raisonnements complètement cuculapralines et tout ça. J'étais à côté de mes pompes. Mais si vous me demandiez à l'école si je croyais en Dieu, bien sûr que je croyais en Dieu. J'étais prêt, j'étais un bon protestant, puisque j'avais été élevé là-dedans. C'est très paradoxal, hein. Vous avez remarqué comment on peut être paradoxal, parfois dans notre manière d'être et tout ça. Donc, j'étais prêt à défendre mon protestantisme devant des copains ou n'importe quoi. Ben, si j'avais été musulman, ben, j'aurais fait la même chose. C'est ça, en fait. Je me suis rendu compte que c'était, mais plus tard, on le réalise, ça. J'ai même fait ma communion, enfin pas ma communion, on appelait ça la confirmation. Donc, et figurez-vous, c'était tordu. Parce que, j'ai plusieurs frères, on est 4 frères dans la famille, et mes 2 grands frères avaient aussi fait leur confirmation quelques années avant. Et j'avais vu qu'ils avaient ramassé des liards. Et j'avais vu que à leur confirmation, on avait fait une belle fête, mais que tout le monde leur donnait des petites enveloppes. Et j'étais pas biaise, hein. Je comprenais très bien ce qu'il y avait dans les petites enveloppes. Alors, quand j'ai eu 16 ans, ben je me suis dit, il faut que je me fasse confirmer. Et donc, j'ai fait ma confirmation. Mais tenez-vous bien, parce que ça va jouer pour plus tard. Je me retrouve dans un... Mon père, quand je suis né, était dans le doute concernant le baptême des petits bébés. Et donc, pour moi, il ne m'avait pas fait baptiser bébé. On appelle ça le pédobaptisme. Donc, chez certains réformés, vous voyez, on baptise les enfants quand ils sont à la naissance, comme dans le catholicisme, on leur met 3 gouttes d'eau sur la tiesse, et c'est bon. Et puis, moi, ça n'avait pas été le cas. Et donc, au moment de la confirmation, à 16 ans, ben, on m'a baptisé, mais j'étais pas converti. Je vous dis, vous m'auriez dit, je crois en Dieu. Bien sûr que je crois en Dieu. C'est quoi comme question? Bien sûr que je crois en Dieu. On m'a toujours dit que Dieu existait. Donc c'était pas du tout un problème de croire en Dieu. Et puis j'ai reçu quelques gouttes d'eau sur la tête. On m'a dit, t'es baptisé. Et j'ai fait ma confirmation, mon baptême dans l'église réformée, comme ça. Et puis, ici, l'histoire que je vous raconte, elle se passe 2-3 ans plus tard. J'avais 19 ans. Et à 19 ans, je commence à vivre cette expérience. Mais j'avais peur. J'avais jamais goûté ça. Et je me sentais aimé. Mon cœur était tiraillé. Je goûtais. Maintenant, je peux vous dire ce qui se passait. Maintenant, j'ai des versets bibliques pour vous expliquer ce qui se passait. C'est que j'étais en train de goûter combien Dieu est bon. J'étais en train de goûter combien l'Éternel est bon. Goûter avec... j'ai envie de vous dire comme je goûterais un morceau de chocolat. Parce que, évidemment, je le goûtais pas comme un morceau de chocolat, mais mes sens le vivaient, mon corps le vivait. Dieu n'était plus quelque chose, c'était plus un concept abstrait. Il devenait réel. Il était là. Vous voyez, c'était sa présence qui était là. Il était là et il s'approchait de moi. Et au lieu de me faire des reproches, il m'aimait. Waouh, ça aussi, c'était un petit peu perturbant pour moi. Parce que pour moi, Dieu, il est là pour faire des reproches. Eh ben non. Dieu ne me faisait aucun reproche, il m'aimait. Et il m'aimait pour ce que j'étais. Et comment est-ce que cette expérience a pu être possible? Mais parce que j'ai été piégé dans ses plans, hein, c'est lui qui avait conduit pour que je sois allé à Ascan. Mais aussi, et ici ça peut être très intéressant pour vous, parce que il y avait tout un peuple qui adorait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et il est écrit que si Jésus est élevé, alors il attire à lui. Alors ce que je voudrais vous laisser comme petite leçon aujourd'hui, je ne vais pas prêcher tout ce que j'ai prévu parce que sinon on est parti sur quelque chose de trop loin. Mais si je peux vous laisser ceci, c'est que votre prière et votre adoration est puissante devant Dieu. Votre prière et votre adoration, elle est puissante, elle a une puissance en elle-même au niveau spirituel et de ce qui se passe dans les lieux célestes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui dépasse votre entendement. Et donc, le culte, c'est pas un moment où on vient chanter 3-4 chants, allez, il faut qu'on fasse notre petit truc. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui est en train de se passer pendant qu'on adore Dieu. Oserais-je vous dire ceci? À la limite, l'adoration, ici je vais me faire taper dessus par mon pasteur, mais c'est pas grave, l'adoration est plus importante que la prédication. C'est... Bon, il faut relativiser ce que je suis en train de dire, hein. Mais votre adoration, vous savez pourquoi, quelque part, c'est aussi important. Je vais utiliser le terme aussi important. Parce que dans une prédication, vous êtes passif. Alors que dans l'adoration, vous êtes actif. Dans l'adoration, c'est le peuple qui adore. C'est pas le petit groupe de louanges qui le fait très bien qui adore. C'est le peuple, c'est le sacerdoce universel. Vous comprenez le mécanisme? Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que quand vous adorez, et il y a plusieurs manières d'adorer, apporter son offrande, c'est de l'adoration. Ce n'est que de l'adoration. Je me donne activement à Dieu. Je me donne concrètement à lui. Vous voyez le mécanisme. Alors que dans une prédication, ben vous êtes là comme si moi j'étais le prof, et puis... Ben, alors, je ne dis pas qu'il se passe rien. Heureusement qu'il se passe quand même des choses. Mais souvent, on est passif. Et c'est pour ça qu'on ne retient pas, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on retient très peu. Parce que ça reste des concepts intellectuels. Vous me suivez? Vous voyez ou comment? Et c'est quand un peuple adore, et je crois que c'est une clé pour le réveil. Notre adoration est une clé pour le réveil. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas appelés tous à faire la même chose. Mais nous sommes appelés à adorer Dieu. Ça, si vous ne connaissez pas quelle est votre place, si vous ne savez pas quel est votre ministère, vous savez, ça se découvre aussi. On demande à Dieu, mais tu m'appelles à quoi? Il y a une chose, vous pouvez être sûr et certain. Dieu vous appelle à être des adorateurs. Dieu vous appelle à être des adorateurs. Et l'adoration, encore une fois, vous pouvez chanter faux comme une casserole et être des adorateurs. Parce que c'est pas une question de se mettre en avant et puis de commencer à chanter. Tout ça. Si vous chantez faux, ben, ne demandez pas au groupe de louanges d'être incorporé parce que, oh, moi j'ai vu, vous avez vu. Oh. J'ai été dans des églises, les amis. C'était en Sicile. Mon Dieu. Mais je pense que leur louange, elle faisait fuir les anges. Oh, c'est, C'était incroyable. C'était une jeune fille qui était au piano. Je ne dis pas ça pour la jeune fille qui vous chantez très bien et c'était très bon. D'accord? Ne vous sentez pas attaqué. Alors la jeune fille, elle avait un bon cœur, mais bon. Et alors, elle était dans un piano, vous savez, le piano qui fait un peu tous les instruments en même temps. Vous avez la batterie, vous avez les trucs. C'était à mourir de rire, hein, parce que c'était les rythmes un peu tout. Vous voyez ce que je veux dire, comme piano. Et alors ça allait, mais c'était fort. C'était, on serait cru à un concert à Forêt Nationale. Et elle chantait. Enfin, c'est pas chanter. C'était à bras raccourcis. Vous voyez, Guichon, vous ne connaissez pas bras raccourcis, vous ne connaissez pas vos classiques Tintin. Et c'était faux. Mais elle gueulait. Et elle ne chantait pas, elle gueulait. Et alors c'était faux. Alors on essayait de se retenir, de ne pas avoir des fous rires. Mais de temps en temps, il fallait qu'on sorte parce qu'il y avait un bruit dans les oreilles. C'était tude. À mon avis, il la faisait chanter pour qu'il pleuve un peu en Sicile. Je sais pas. C'était terrible. Non, moi je vous parle pas de ça. Donc, si vous chantez faux, ne demandez pas à aller dans le groupe de louanges. Vous pouvez adorer Dieu de tas de manières. C'est, il y a pas que l'expression musicale. Il y a des tas de choses qui sont dans l'adoration. Mais c'est cette adoration-là qui a fait que Jésus était élevé au milieu de ce peuple, de ces jeunes. Et Jésus étant élevé au milieu de ces jeunes, eh ben, ça a attiré mon âme. Et vous savez, c'est un peu bizarre parce que il y a des versets qui disent cherche l'Éternel de tout ton cœur et tu verras, il va se manifester. Vous connaissez ces versets, hein? C'est dans Jérémie et tout ça. C'est comme ça que Finet s'est converti d'ailleurs. C'est parce et moi je le cherchais pas du tout. J'étais pas quelqu'un qui cherchait Dieu. Je pensais que je l'avais. Mais c'est Dieu qui m'a trouvé. C'est Dieu qui nous trouve, les amis. Ça, c'est un grand secret. C'est Dieu qui t'aime plus que tu ne peux imaginer, qui t'aime plus que tes parents ne pourront jamais t'aimer, et qui fait tout pour te trouver. Dieu fait tout pour te trouver. Alors ce matin, vraiment, je voudrais te dire que t'es au bon endroit. T'es au bon endroit, simplement, tu ouvres ton cœur et tu dis à Dieu, hey, je veux bien me laisser toucher par toi. Et tu vas voir les choses que le Saint-Esprit a en réserve pour toi. Tu vas voir les choses que le Saint-Esprit a en réserve pour toi. J'aimerais vous dire que, oui, alors j'étais à Scan, j'ai eu peur, hein, c'est bizarre, mais c'est plutôt la peur qui guidait mes pas. Et alors, je me suis dit, c'est les émotions, c'est du sentimentalisme, j'étais heureux avec eux. Et la suite du camp, j'étais touché, mais je ne savais pas comment répondre à Dieu. Je ne savais pas ce que je devais faire avec ce que je vivais. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sentais la présence de Dieu. Je m'éveillais aux choses de l'esprit. Je m'éveillais aux petites choses. Mais j'étais toujours sur ma réserve. En fait, ma crainte, c'était que tout ça soit l'ambiance d'un camp et puis qu'après, il n'y ait plus rien. Et Dieu a respecté ça en moi. Dieu a respecté. Vous savez, il y a parfois des conversions qui sont fulgurantes, comme ça. Et puis, il y a parfois des conversions qui sont des conversions comme si c'était une étape à la fois. Il y a quelque chose qui s'est mis là, qui a été enclenché. Et puis, faut pas vouloir forcer les choses. Parce que si on force les choses, on fait pique mieux. L'image que j'ai pendant que je suis en train de vous parler, c'est celle d'un papillon. Vous savez, quand un papillon sort de la chrysalide, quand il sort du cocon, eh ben, il y a ses ailes qui doivent se déployer. D'accord? Et il y a quelqu'un qui raconte qu'il voit un magnifique papillon qui sort comme ça. Et puis, le gars, il se dit, je vais aider le papillon. Et il prend les ailes et il veut les décoller. Et ça les a cassés. Et ça a fait mourir le papillon. Alors, parfois, avec nos bonnes intentions, on veut pousser, et on fait pique mieux, on se rend pas compte qu'on est quelque part en train de mettre des bâtons au Saint-Esprit. Parce que j'ai un petit secret à vous dire. C'est pas nous qui convertissons les gens. C'est le Saint-Esprit. C'est son rôle. C'est lui qui attire. C'est lui qui fait ces choses. C'est pas nous. Alors oui, il va nous utiliser. Oui, on va collaborer avec lui. Oui, on peut faire des campagnes d'évangélisation. Mais c'est lui qui prépare les cœurs. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui sait comment il faut faire. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. On a peur de laisser le Saint-Esprit agir. Et on croit que le Saint-Esprit, il a besoin de coups de main. Ou il a besoin, vous voyez, mais en fait, quelque part, c'est un manque de confiance par rapport à Dieu. On manque de confiance, on n'a pas la confiance que le travail que Dieu a commencé, il va l'amener à la perfection. Alors, dans ces cas-là, il faut de la sagesse, il faut du discernement, il faut juste être là et dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, si tu as besoin de moi, je suis là. » Mais c'est toi qui le fais. Et je ne veux pas. Je pense, je suis en train de vous dire ça, mais je pense que parfois des parents, eh ben ils poussent tellement les choses parce qu'ils veulent voir leur gosse se convertir. Et ils se rendent pas compte que, à force d'insister, c'est parfois pire que mieux. C'est ça que je voudrais vous communiquer derrière tout ça. Soyez relax. Mes enfants sont venus au Seigneur sans mon aide. La seule chose que j'ai que je peux me glorifier, entre guillemets, mais que je, par rapport à la conversion de mes enfants aiment Dieu, et comment les, il y en a trois qui ont un appel au ministère, la quatrième, tout ça est en train de se jouer, mais, elle aussi, je crois, elle a un appel au ministère. J'ai jamais poussé mes enfants à la conversion. Jamais. Et je vais vous avouer même, ça vous choquer. J'ai très peu prié pour la conversion de mes enfants. Très peu. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux pas que mes enfants soient chrétiens. Je veux qu'ils te servent. J'ai mis la barre plus haut que simplement avoir la conversion. Le désir de mon cœur et ma prière devant Dieu, c'était de dire à Dieu, je veux pas simplement qu'ils deviennent des enfants du royaume, qu'ils se convertissent, mais je veux qu'ils soient des instruments de réveil. Et on va voir dans les prochaines années, si vous entendez le nom de Maud, à droite, à gauche, un peu partout dans le monde, dire, oh, il y a des choses qui se passent. C'est qui? C'est Pierre de Maud? Non, c'est Sven de Maud. Ah, oh, non, c'est Suzy de Maud. Ah, vous voyez? Et alors, parce que ça, c'est le désir de mon cœur. C'est vraiment, ça a été le désir de mon cœur. Et alors, j'ai dit à Dieu ceci. Moi, je m'occupe de ton royaume, et toi, tu t'occupes de mes affaires. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, moi je vais chercher ton royaume et toi tu t'occupes de mes enfants. Toi tu t'occupes de tout. Et il l'a fait. Il l'a fait. Alors, la seule chose, entre guillemets, que je pourrais me glorifier, mais c'est juste de l'intelligence spirituelle, c'est juste de la sagesse. C'est que j'ai veillé, et ça va te faire plaisir Benjamin, j'ai veillé à ce que mes enfants soient en contact avec la gloire. Donc, je les ai piégés. Je les ai fait aller dans des endroits où il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Et à l'époque, chaque année, j'allais dans un Bible Week à Stoneleigh. Tu te rappelles, Benjamin? On s'est vu là-bas, hein? Dans ces années-là. Et alors, c'était des choses extraordinaires parce que la gloire de Dieu se manifestait et on était plusieurs milliers de chrétiens. À la fin, il y avait 7000 chrétiens réunis au même endroit. Et alors, les Anglais, et donc ça se passait sur 2 semaines. Donc, ça a attiré plus de 14 000 chrétiens au total dans les dernières années. Alors, les Anglais, ils sont très, très doués au niveau organisation. Et il y avait les réunions pour les adultes, et ils avaient en parallèle des réunions par tranche d'âge. Donc, il y avait des réunions pour les enfants de jusqu'à 6 ans, Puis il y avait des réunions pour les enfants jusqu'à 8 ans. Puis, enfin, je dis des âges comme ça, mais vous voyez, c'était mis par groupe d'âge. Et alors, parfois, moi, je passais devant le local où il y avait tous les ados. Et alors là, c'était des rockeurs qui venaient faire la louange. Et c'était méchant, ça déménageait, les amis. Wow, c'était autre chose que... Et c'était vraiment, vraiment puissant. Et la gloire de Dieu se manifestait. Et donc, les gosses, ils se convertissaient par dizaines, par centaines au milieu de ça. On voyait des punks venir à ces réunions. Donc, vous voyez, il y avait deux... Je me rappelle, la dernière fois, il y avait deux punks français qui était là, mais ils puaient. Bon, vous auriez dû voir le bazar. Et ils étaient là, et ils venaient avec leur tête en iroquois et tout le tralala. C'était impressionnant. Et mais ils étaient pas méchants, hein. Mais je peux vous dire que ça puait. Et alors, ils étaient là avec leur costard et leur chaîne. Et puis, au bout de 2-3 jours, un soir, on voit les deux mecs revenir avec les cheveux complètement grasés, enfin complètement coupés, lavés, propres. Waouh, on a. La conversion, elle se juge pas à ça, mais je veux dire, on avait vu qu'ils avaient été touchés par la présence de Dieu, et dans tout leur corps avait été, ils s'étaient lavés, ils s'étaient changés. Et alors, j'ai rien contre les punks, hein, j'étais punk quand même, donc vous pouvez rester punk, ça ne me dérange pas. J'ai vu des punks chrétiens qui avaient leur tête en iroquois et tout ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Mais là, c'était marrant de voir le changement dans leur attitude. Et alors, on était à Stony, à ce Bible Week, et je vois, on allait chercher nos enfants qui étaient pris en charge par des églises, et chaque fois que j'allais chercher mes enfants, eh ben, ça nous prenait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente. Vous savez pourquoi? C'est pas ça. Ils étaient tombés dans l'esprit. Et on allait récupérer nos gosses. Et on attendait que le temps de visitation soit fini, les responsables priaient pour eux. Vous aviez tous ces enfants. Mais c'est beau à voir, je vous assure. Parce que les enfants, ils sont sans préjugés. Ils ne se disent pas, c'est le diable, ou qu'est-ce que c'est que ça, ou n'importe quoi. Les gosses, ils sont simples, vous priez pour eux. Et puis, boum, ils tombent. Ils ont jamais vu ça, mais c'est pas grave. Et ils tombaient dans l'esprit. Et ils restaient là, une heure. Et nous, on attendait que ça se passe. Mais vous savez, ce que j'ai vu, c'est que mes enfants ont goûté à la gloire de Dieu. Mes enfants ont été touchés par le Saint-Esprit, par ce moyen-là. Alors, ça m'est complètement égal que ça vous dérange. Ça m'est complètement égal que vous soyez fâchés de ce que je dis ou que vous ne soyez pas d'accord. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Et je peux vous dire, si vous mettez, et si vous avez l'intelligence de mettre vos enfants, là où il y a la gloire de Dieu, vous allez voir que Dieu va s'occuper. Il va faire ce qu'il doit faire. Et il est beaucoup plus intelligent que nous. Beaucoup plus... il sait comment faire les choses. Il sait comment faire les choses. Donc, n'ayez pas peur des manifestations. N'ayez pas peur de cela. N'ayez pas peur de voir parfois, si on prie pour quelqu'un tomber, quelqu'un si, vous savez, j'en ai vu des trucs, hein, vraiment des bazars, mais, ce qui m'importe, moi, c'est le fruit. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que ça transforme dans la vie des gens. Bon, c'est vrai, je dois le dire, j'ai vu des gens pour qui on prie, qui n'arrêtent pas de tomber. Mais leur vie n'est pas transformée. Alors ça m'intéresse pas. Mais oui, il faut le dire. Il faut le dire que on peut être confronté. Hein, c'est pas parce que vous voyez des manifestations de puissance que tout ce qui se passe est juste et tout ce qui se passe est bon dans le cœur des gens. Je sais. Mais quand le cœur est pur et on peut goûter à ces choses, alors Dieu agit puissamment. Et ce qui est important, c'est le fruit. C'est le fruit. Alors j'ai toujours fait en sorte, quand j'entendais parler d'un camp avec des jeunes. Pas n'importe quel camp, hein. Je vous dis, je cherchais un camp où il y avait la gloire de Dieu. Eh ben, j'inscrivais mes enfants à ces camps. Et je laissais Dieu faire. Et ils étaient contents d'y aller. Et alors, ils y allaient en bande et puis ils étaient touchés par la présence de Dieu. Je sais pas si vous connaissez Pierre Offay. Ça vous dit quelque chose, Pierre Offay? Non, c'est un ministère, comment, il travaillait avec Nathanaël Beumier, il travaillait avec Guylain Lukunku sur Bruxelles, et il organisait des camps à Heidelberg régulièrement entre francophones et allemands. Il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait là. Les gosses étaient touchés par la gloire de Dieu et ils revenaient transformés. Ils revenaient changés. Soyez intelligents. Soyez intelligents dans et demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ouvrez-vous pour que la gloire de Dieu puisse se manifester tout autour de vous. Et regardez toujours aux fruits. Regardez aux fruits. J'aimerais vous dire que ma conversion a été de tourpeau. Et que j'ai donné ma vie. Ah oui, alors je vous raconte, parce que je sortais de ce camp. Je savais que je devais faire quelque chose par rapport à ce que j'avais reçu de la part de Dieu. C'est un peu comme si Dieu me disait, écoute Pierre, mais je me suis approché de toi. Mais maintenant, c'est à toi de t'ouvrir si tu veux plus de moi. Et alors, quand le camp a été fini, je me suis retrouvé à Mons, dans mon cote, et j'avais une petite invitation qui avait été glissée en dessous de ma porte pour un coffee bar. Et je me doutais que de ce coffee bar à Mons, qui existait à la rue du gouvernement, c'était des mêmes jeunes qui étaient avec moi dans le camp à Ranly, où j'avais goûté à des choses de Dieu comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à ce coffee bar. Et j'étais tout content de retrouver tous ces jeunes. Alors, c'était des jeunes qui faisaient de l'évangélisation en rue. C'était une église qui avait mis au point ce coffee bar. Et ils allaient évangéliser les musulmans. Donc, ils allaient chercher les musulmans. Ils les ramenaient dans l'église. Et puis, ils parlaient avec eux. Il y avait une cellule de prière au-dessus, à l'étage. Ils intercédaient. On leur communiquait le nom des gens qui étaient là. Et dans cette église-là, les trois quarts des membres de l'église sont venus au travers du coffee bar. C'était une église de 200 personnes, et à un certain moment, on a demandé aux gens qui s'étaient convertis au travers du ministère de Pierre et Christine Beumier dans le coffee bar de se lever. Ils étaient 150. 150 personnes se sont levées. Ils avaient un impact absolument incroyable. C'est une église réformée. Et donc, je vais à ces réunions de coffee bar, et là, je savais dans mon cœur que je devais, moi, Pierre de Maude, dire à Dieu, il faut que tu viennes dans ma vie. Tu t'es approché de moi, tu es venu jusque-là, mais maintenant, si je veux plus de toi, il faut que je fasse une démarche. Il faut que j'ouvre mon cœur. Il faut que j'aille plus loin avec toi. Et alors, j'ai été à une réunion, et dans mon cœur, en allant à cette réunion, je me disais, je sais que je dois donner ma vie au Seigneur. Et puis, il y a une prédication. J'ai rien compris à la prédication. Faut croire que je suis un peu difficile pour comprendre les choses. Mais quand Pierre Beumier a fait l'appel, je savais que je devais lever la main pour répondre à cet appel. Dieu avait préparé toutes choses. J'aime ça. Quand Dieu prépare les choses, vous voyez, et que c'est boum, ça revient. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Dieu a préparé les choses d'avance. J'aime même ça dans la guérison. C'est Dieu qui prépare le cœur de la personne pour recevoir la guérison. Toi, t'es là, t'as une parole de connaissance. Boum, ça correspond à ce que la personne a rêvé et tu vois la guérison se manifester. J'aime ça. J'aime ce genre de manifestation. Et je vois je donne ma vie au Seigneur et j'aimerais vous dire qu'à partir de là, tout a été beau, tout a été magnifique. Ce n'est pas vrai. Donne ta vie au Seigneur Jésus, les ennuis vont commencer. Donne ta vie au Seigneur Jésus, les difficultés vont commencer, mon ami. Parce que quand tu sers Dieu, quand tu veux t'approcher de Dieu, quand tu veux rentrer dans les choses de Dieu, c'est là où la persécution va commencer. Et j'ai très rapidement goûté à la persécution. Et vous savez, la persécution la plus terrible, ce n'est pas la persécution qui vient des ennemis de Dieu. C'est une persécution qui vient de l'intérieur. C'est une persécution qui vient de gens qui devraient être censés vous aider dans la foi. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de cette persécution, et c'est pas pour critiquer mes parents, Mais c'est un fait que la situation a été absolument terrible. Mon père a été hyper, hyper content que je donne ma vie au Seigneur. Mon père a vu une transformation dans mon cœur et dans ma vie, et il a béni Dieu pour cela. Mais vous vous rappelez ce que je vous avais dit avec le baptême? Et vous rappelez ce que je vous ai dit avec ma confirmation? Et j'ai commencé à suivre des cours de disciples. Et puis dans ces cours de disciples, on commence à parler du baptême d'eau et dire il faut se faire baptiser. Mais moi, j'étais complètement perdu dans ma tête parce que je disais aux gens, mais j'ai déjà été baptisé. Ah oui, mais on me dit, mais c'était quand tu étais tout petit. Non, 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 j'avais 16 ans, donc j'étais adulte. Alors la grosse question, est-ce qu'il fallait se faire baptiser ou pas? Et alors, je discutais dans les cours avec Pierre et Christine, et puis eux me disaient, oui, il faut se faire baptiser, si tu veux aller plus loin, il faut obéir à Dieu et tout ça, c'est par rapport à la conversion. Et moi, je rentrais le week-end chez moi et j'en discutais avec mon père, et mon père me donnait des versets bibliques pour me dire, mais non, tu dois pas te faire baptiser, t'as déjà été baptisé, il y a qu'un seul baptême et tout ça. Et j'étais perdu dans ma tête. Je ne savais pas ce que je devais faire, parce qu'il y avait un conflit de loyauté envers mes parents. Il y avait un conflit de loyauté par rapport à tout ce que je vivais. Et puis je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors j'étais un margoulin, hein, parce que il y avait des réunions comme celle-ci. Et puis au moment où il fallait prendre la Sainte-Seine, on disait aux gens, il faut avoir été baptisé pour prendre la Sainte-Seine. Et moi je disais, j'ai été baptisé, donc je prenais la Sainte-Seine. Mais l'ancien qui était là, il ne voulait pas me donner la Sainte-Seine. Alors il me disait, t'as été baptisé adulte? Et je lui disais, oui, j'ai été baptisé adulte. Ah, alors il était bien obligé de me la donner. Et c'était des jeux, je vous dis pas. Mais ça travaillait mon cœur, ça travaillait mon intelligence. J'étais pas bien et je me posais des questions. Et je dis à Dieu, écoute, il faut que tu me parles. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu de vous parler? Est-ce qu'il vous a parlé? C'est bien, c'est bien. Et moi, je le cherchais. Je disais, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises ce que je dois faire. Je dois me faire baptiser ou je dois pas me faire baptiser? Et je cherchais Dieu de tout mon cœur. Je me suis mis à jeûner. Je n'ai pas rentré le week-end chez moi, je ne suis pas rentré. J'ai dit, je passe le week-end à jeûner pour savoir, Seigneur, il faut que tu me parles. Et Dieu ne me disait rien. Pas un mot. Et le dimanche, je vais au culte, à Mons. Et je suis assis dans la salle. Je vous dis, on était plus de 200 personnes. Assis devant moi, il y avait un ancien d'une église évangélique de Charleroi qui était venu en visite dans cette église-là à Mons. Il faisait l'église de Philippe Hubinon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et cet ancien était là et le pasteur se lève et il dit, il y a quelqu'un ici, il est ancien, il vient d'une église étrangère à la nôtre, il dit même la région. Voilà ce que le Seigneur lui dit. Et il commence à parler, à avoir des paroles de connaissance pour la personne qui était juste là, à la place où est David. Et moi, j'étais assis juste derrière, comme la petite jeune fille là. Et je dis à Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lui, il n'en a rien à cirer de tes paroles de connaissance. Il s'en fout comme de l'an 40. Et tu lui parles. Et à moi, tu ne me dis rien. Je suis comme ça avec Dieu. J'étais fâché. J'entendais la parole de connaissance qu'il donnait à la personne. Et mon cœur bouillonnait de rage. Et je vous assure, j'ai dit ça à Dieu comme ça. Le pasteur se relève et il dit, il y a un étudiant étranger à notre communauté, il est en visite parmi nous, le Seigneur lui dit qu'il doit se faire baptiser. Bam! Dieu m'avait parlé et les ennuis allaient commencer. Parce que moi, j'étais tout fou, j'étais tout content. Et je dis, Dieu m'a dit que je devais me faire baptiser. La réponse était claire, claire, claire. Plus claire que ça, tu meurs. Et je rentre chez moi et j'annonce ça à mon père. Oh, 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 les amis. La bombe atomique. C'était une explosion ce que je disais devant mes parents. C'est tout juste si mes parents ne m'ont pas renié à ce moment-là. Pourtant, ils étaient pasteurs, chrétiens, ils aimaient Dieu. Si j'avais dit à mes parents que j'étais devenu témoin de Jéhovah, ça aurait fait moins de problèmes. Si j'avais dit à mes parents que j'allais de temps en temps au bordel, ça aurait fait moins de problèmes. Mais oser dire que j'allais prendre mon baptême, c'était la guerre atomique. Et je vais vous dire, maintenant je comprends pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a une puissance spirituelle derrière le baptême et il y a un pas d'obéissance, il y a des choses où Dieu nous demande de le faire, c'est pas pour rire, et le diable n'est pas du tout d'accord avec cela. Et il va se charger de choses. Et écoutez, je sais pas s'il sera enregistré ou si ça, j'aime mes parents parce que ça, les choses se sont arrangées maintenant, mais à l'époque, ça a été terrible. Terrible, terrible. Mais j'ai appris la persécution. J'ai appris qu'il y avait un prix pour servir Dieu. Et il y a un prix si tu veux servir Jésus. Il y a un prix, mon ami. Ne crois pas que les choses vont aller comme ça et tout va être beau, tout rose et violette. Mais Dieu m'a fait passer par une épreuve de feu, là. Et j'ai tenu bon. Et j'ai tenu bon. Mes parents, chaque fois que je revenais le week-end, mes parents pleuraient devant moi. Vous imaginez ? Ma mère me disait, tu fais honte à ton père, tu es possédé. Vous imaginez, en tant que parent, dire ça à ses enfants, elle me disait, tu as un esprit mauvais, tu es possédé et tu te laisses manipuler. Alors Dieu me donnait des paroles de sagesse extraordinaires. Je disais, mais si je suis possédé, il faut que vous priez pour ma délivrance. Alors là, ils étaient embêtés. Ils ne savaient pas quoi faire. Puis je disais, mais dans l'église réformée, il y a un ministère, il y a un pasteur qui s'appelle Ruben Quenon, je pense, qui a un ministère de délivrance. Il était du côté de Baudou, du côté de Liège, je ne sais plus exactement. Et je disais, alors je prenais le téléphone, on va lui téléphoner pour qu'il me délivre. Là-dessus, ils étaient fâchés après moi et tout ça. Mais Dieu me donnait des paroles comme ça, instantanément, pour répondre à la situation. Et je fréquentais l'église du foyer Emmanuel Ransard, où Raymond Van de Put était le pasteur. Et Raymond Van de Put, figurez-vous, était aussi responsable, peut-être pas responsable, mais il était dans l'organisation avec Jeunesse en Mission Bruxelles. Et mon père a été prétendre que si je me faisais baptiser, c'était de la faute de Jeunesse en Mission. Et que c'était Jeunesse en Mission qui m'avait mis dans la tête que je devais me faire baptiser. Là-dessus, gros scandale par rapport à Jeunesse en Mission, par rapport à Ransard, dans la pastorale. C'était la folie. J'ai été connu avant quoi que ce soit, jusqu'à Bertigny, en Suisse, chez des responsables de Jeunesse en Mission. Et c'était le scandale Pierre de Maude. Un jour, je m'en vais en Suisse, à Bertigny, et je connaissais personne là, et je vois les gens, alors je me présente, je dis, je suis Pierre de Maude. Ils me disent, ah, c'est toi? Et ça avait provoqué un tel scandale dans la région de Charleroi, incroyable. Mais je me suis fait baptiser. Et le jour, et Raymond, il a été courageux, parce qu'il a tenu ferme à mes côtés, il me supportait dans ma démarche de me faire baptiser. Et je suis passé par les eaux du baptême, et en passant par les eaux du baptême, quand je suis sorti de l'eau, j'ai senti des écailles qui tombaient de mes yeux. Il y avait une puissance spirituelle d'aveuglement qui me tenait lié, et quand je suis sorti de l'eau, c'est des écailles qui sont tombées de mes yeux. C'est comme si je voyais clair, là. Et j'ai dit, mais je suis biaise. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? Vous voyez, on est parfois piégé par des raisonnements complètement fous. J'ai grandi dans les choses de Dieu comme ça aussi, avec des pas d'obéissance. Un des gros problèmes que j'avais dans ma vie spirituelle, c'était la musique. Je vous ai dit, je veux pas que j'étais punk avec une crête et tout tralala, mais j'écoutais toutes les musiques punk. Et la musique était un dieu pour moi. La musique avait une place tellement importante dans mon cœur et dans ma vie que c'était un dieu pour moi. Et je me rappelle que j'étais au Café Le Bastia à Charleroi, j'étais au bar en train de boire une bière et je discute avec Dieu. Vous savez, vous pouvez discuter avec Dieu en buvant une bière, hein, au bar, dans un café. Et je dis à Dieu, écoute, ma musique, elle est très importante pour moi et je veux bien te la donner. Mais c'est comme si ça allait me faire un vide là, il faut que tu le remplisses. Il faut que tu me donnes autre chose. C'est comme ça que j'ai parlé à Dieu. Et le lendemain matin, en me réveillant, je ne dis pas un mot. Je prends ma pile de disques, c'était des vinyles à l'époque. Hein, je ne sais pas si vous allez connaître mon âge, hein, bientôt. Et c'était des vinyles, il y avait des Sex Pistols, il y avait plein de trucs de musique que j'écoutais à fond là-dedans. Et je prends ma pile de disques, je vais dans la salle de bain, je vois mon père qui est en train de se raser et tout ça. Je lui dis même pas bonjour, je sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais dans un état second. Je prends la bouteille de White Spirit. Je vais dans la cour de l'immeuble où on habitait. Je mets mes disques là où on brûlait les papiers. Je mets un peu de White Spirit et je mets le feu. Et au moment où mes disques brûlent, il y a quelque chose qui sort de moi. Chroum! J'étais délivré. Il y avait encore une puissance démoniaque qui me tenait lié, qui m'empêchait, hein, qui j'étais tenu, j'étais lié par cette musique. Et puis, chose extraordinaire, Dieu a commencé à changer mes goûts musicaux. Il m'a fait connaître des groupes chrétiens. Il m'a fait connaître une autre musique et pas des chants cuculapralines. Hein. À l'époque, il y avait des très bons groupes. Il y avait même U2 ou des bonnes musiques. Mais ça changeait par rapport à ce que j'écoutais comme musique. Dieu a transformé mon cœur. Dieu a transformé ma vie. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez goûter à ce Dieu-là? Est-ce que vous voulez goûter à ces choses-là? Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va demander à Dieu de se manifester. Je vais prier pour vous, mais je vais prier pour vous